Les Javanais, Jean Malaquais, 1939. C'est entendu, tout le monde sait que le Coran interdit le vin aux fils d'Allah. Oui, mais le grand moufti en personne vous dirait que le prophète n'a sûrement pas pensé à la soif qui dessèche les fidèles au fond de la mine. C'était un prophète très occupé. Et puis, allez savoir, il n'y avait peut-être pas de mine au temps jadis, ni de vigne non plus. Au temps jadis de Bab el-Mandeb à la mer morte et de la Mecque au golfe Persique, l'Arabie heureuse n'était que du sable. Bref, quoi qu'il en fût, El-Hassin Ben Khalifa et Daoud Alima étanchaient leur soif chez Madame Michel, épicerie vin à la double pesée. Lendemain de paye. Le dimanche était jour d'affairement à l'épicerie vin de la double pesée. Sur les tables de la salle, dont l'unique fenêtre observait la mer, les litres de rouge ne chômaient pas. Pour ce qui était de la recette, le jour du Seigneur justifiait à lui tout seul le prix que Madame Michel avait payé son fonds de commerce. Si ces pratiques étaient regardantes sur l'apéritif, une denrée de rapport, celle-là. Il leur fallait en revanche des pots et des pots, car ils n'avaient pas coutume de lambiner en chemin. Aussi, surveillait-elle son monde, comptait le va-et-vient des bouteilles, restait ferme sur la question du crédit. Ah, une vraie commerçante, Madame Michel. Pas de crédit! Surmontant la réclame d'un digestif national, une affichette agrémentée d'un corbillard informait les consommateurs que crédit est mort. Ces ouvriers de la mine, tous des étrangers, non mais comment voulez-vous que je m'y retrouve ? Pas de mauvaises gens, non. Madame Michel n'avait rien contre. Sauf que, ils étaient comme des oiseaux sur la branche. Aujourd'hui ici, puis demain, pouf, ni vu ni connu. Alors, prudence oblige. Ah non, plutôt rabattre un sou sur le prix du litre que tenter le diable. Hein. Les buveurs y gagnaient et Madame Michel ne s'en trouvait pas plus mal. Elle était ponctuelle sur les principes. Ponctuelle, mais sans raideur. Parce que, si seulement les ouvriers de chez Bigorneau Fils et compagnie venaient prendre leur verre à la double pesée. Oh, Bigorneau Fils et compagnie fabriquaient des machins qui explosent sous la mer, des torpilles qu'on les appelle. Ils avaient même une station d'essais secrètes, c'est pour dire. Alors, leurs ouvriers, c'étaient des personnes avec leur chez-soi, puis du bien au soleil. La compagnie leur avait fait construire des maisonnettes blanchies à la chaux, chacune avec ses persiennes peintes en vert et un jardin potager par devant. Elle avait fait tracer, comme qui dirait, des rues bordées de palmiers nains et une vraie route pour aller en moto à Vaugelas. Elle avait même monté une crèche pour les enfants et une salle de fête où on donnait des films le samedi soir et un bal le 14 juillet. Oh, c'était joliment agencé, tout coquet dans le paysage et les gens y prenaient racine. Oh, puis y a pas, hein. C'était des Français de chez nous, c'est pour dire. Madame Michel n'en voulait pour preuve que l'exemple de la Semeuse, une maison spécialisée dans la vente à tempérament. Ayez, je vous prie, une petite année de présence chez Bigorneau Fils et compagnie, et c'est entendu. La Semeuse vous allonge des bons d'achat jusqu'à des 500 francs. C'était comme une assurance de solvabilité, comme un certificat de bonne vie et mœurs. Et oui, question ardoise, les bigorneaux n'auraient qu'à se pointer. Madame Michel serait prête et consentante. Hélas, ils avaient leur bistrot à eux, leurs épiceries à eux. Quant à ces étrangers de Java, qui essaient toujours, mais rien à faire. Hein. La semeuse ne marcherait pas, même pour 20 sous, elle ne marcherait pas. N'empêche, ces Javanais, Madame Michel leur trouvait du mérite. Le certain, c'est qu'ils chipotaient pas sur la consommation. Ils avaient la pépille, et la dalle en pente, comme on dit de juste. À croire qu'un bras zéro leur évaporait le dedans du corps. C'était peut-être le mal du pays. Ou alors peut-être autre chose. Ils parlaient de langues incompréhensibles, sans seulement prendre le temps de respirer. Alors, plus ils parlaient, plus ils avaient soif. Elle était curieuse, c'est naturel quand on tient un commerce. Mais à moins de se fendre d'une tournée générale pour qu'ils vous expliquent leurs palabres que les oreilles m'en tombent, pensée furtive. Alors parce que, pardonnez-moi, mais le couac des canards, et ça, c'est tout comme. Impossible de savoir s'ils se disaient des salamalecs ou des rosseries. Non, à son avis, il rabâchait toujours et encore la même ritournelle sans jamais se mettre d'accord. Une dispute qu'il traînait depuis leur pays d'origine.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, c'est la philanthropie de l'ouvrier charpentier. Philanthropie aujourd'hui en connaissance de Jean Malaquais. Jean Malaquais, donc là c'était un extrait du livre, c'était même le début du livre Les Javanais. Donc je me propose qu'on fasse connaissance avec ce personnage. Alors moi je l'ai connu la semaine dernière, en vérité, j'ai connu la semaine dernière dans une librairie où j'ai appris que des personnes venaient lire des textes de Jean Malaquais, des poèmes. Et puis, ben, je les ai invités, ça va plus vite, hein. Comme ça au moins ils pourront nous le faire en direct. Alors, on va peut-être commencer, d'abord vous êtes qui là? Parce que vous êtes nombreux et tout là, j'ai pas l'habitude. Non, parce que d'habitude on dit toujours que c'est les chroniques syndicales qui sont très nombreux, parce que c'est des syndicalistes. Et moi, pas du tout, donc vous êtes nombreux, vous êtes qui?
Alors nous sommes un certain nombre d'adhérents à la société Jean Malaquais qu'on a créée il y a un an, deux ans. Alors je m'appelle Geneviève, voilà.
Georges.
Michel.
Gilbert.
Et Christiane.
Voilà, on a fait le tour de la table.
Voilà.
Alors, déjà, comment vous avez découvert et qui a découvert comme ça Jean Malaquais? Parce que, bon, c'est pas quelqu'un de très connu. Alors, il est connu dans les milieux libertaires, puisque Mépicré en parlait, Henri Poulaille en parlait. Mais à part ces milieux-là qui sont quand même relativement restreints, c'est quelqu'un qu'on connaît pas beaucoup. C'était qui?
Alors, comment on l'a connu?
Oui, alors d'abord, comment vous l'avez connu?
Alors, on l'a connu, en fait, j'avais travaillé à une maîtrise sur la peinture de la classe ouvrière dans les années 30. Et donc, je m'étais intéressée, évidemment, à Henri Poulaille et à des tas d'autres auteurs des années 30, à l'école prolétarienne. Et puis, j'avais lu Littérature et Révolution de Trotsky, qui a cet article extraordinaire qui s'appelle « Un nouveau grand écrivain, Jean Malaquais, les Javanais ». Et un article critique sur les Javanais qui m'a donné vraiment envie de dire les Javanais.
Je te propose simplement de te lire la première phrase justement de cet article, parce que je la trouve pas mal. Il est bon que sur Terre, il y ait non seulement la politique, mais aussi l'art. Ça, c'est Trotsky.
Et ça, c'est Trotsky. Et Trotsky, d'ailleurs...
En 39.
En 39, et c'est un excellent critique littéraire, et qui a donné tout de suite, qui donne envie de toute façon de découvrir l'œuvre. Or, à l'époque, quand j'ai fait cette maîtrise, dans les années 80, il était très difficile de se procurer les Javanais. Ce n'était pas un ouvrage qui avait été réédité. Donc, on le trouvait chez les bouquinistes. J'ai fini par le trouver dans son édition de 39, parce que Malaquais a réécrit ensuite ses livres. Enfin, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et donc, j'ai été emballée, absolument emballée. Et puis alors, ensuite, l'histoire donc est une histoire à deux voix. Je vais passer la parole à Georges, puisque lui a rencontré Malaquais à une autre occasion.
Alors, vas-y. Alors, moi, j'ai rencontré Malaquais en 1968.
Alors, faut savoir que Malaquais est mort il y a...
En 98.
En 98. Donc, et c'est quelqu'un qu'on a pu rencontrer physiquement.
Voilà, mais je ne l'ai pas rencontré physiquement. Je l'ai rencontré sous la forme d'une petite brochure qu'il a écrite qui s'appelle « Le nommé Louis Aragon ou le patriote professionnel ».
Oui.
Et même à l'époque où j'étais vraiment novice, moi, j'ai une enfance gaulliste et religieuse, donc voilà, je tombais vraiment dans l'opposé. Mais cette brochure m'a fait éclater de rire tellement elle est... mordante, bien écrite, tellement elle est vraie, tellement on se dit, mais vraiment c'est Aragon, quel sale type. Et alors voilà, ça m'a emballé ce texte. Voilà.
Alors ensuite, j'ai rencontré Georges, et donc on s'est rendu compte l'un et l'autre qu'on avait beaucoup d'attachement à cet auteur, et d'intérêt pour cet auteur, et nous avons eu une amie qui nous a fait connaître en fin de vie, c'était une amie de Georges, qui nous a fait connaître en fin de vie, elle était en fin de vie, elle, Planète sans visa, qui est vraiment le chef-d'œuvre de Malaquais. Je pense que c'est le livre sur la France de la collaboration de 1942. Et donc, nous sommes dit, il faut absolument faire connaître cet auteur. Donc, j'ai soutenu une thèse sur Malaquais, et après, nous avons organisé un colloque, puis la société Jean Malaquais, Et petit à petit, donc, des adhérents sont venus, apprécient Malaquais, c'est de le faire connaître. Et donc, Gilbert a illustré les poèmes de Malaquais. Et là, nous sommes assez nombreux autour de cette table pour le prouver. Enfin, bon, il n'y a pas toute, évidemment, pas toute la société Jean Malaquais. Alors oui, on l'a rencontré. On a rencontré Malaquais alors qu'il avait 90 ans, dans les derniers mois de sa vie.
Oui, c'est les derniers mois, parce qu'il est mort à 90 ans.
Voilà, on l'a rencontré. Moi, je l'ai rencontré 4 fois. Et je dois dire aussi que nous nous sommes liés personnellement à sa femme et à sa fille, qui sont des amis extraordinaires. Enfin, sa femme est une femme extraordinaire, qui nous a ouvert absolument toutes les portes, tous les tiroirs. On a eu accès à toutes les archives. Et bon, je crois que si aujourd'hui on a réussi à faire ce travail, c'est en grande partie grâce à Dominique Malaquais et surtout à Elisabeth Malaquais. Et son compagnon Hugh, d'ailleurs. Ouais. Oui.
Surtout qu'en termes d'édition, il n'y a pas eu tant que ça, de fait. Il y a quelques éléments importants. T'en as cité un, Javanet, t'en as quelques-uns, mais il doit y avoir beaucoup d'autres choses qui traînent, c'est pas possible.
Ah oui, non, mais il y a eu des choses. C'est-à-dire qu'en fait, Malaquais a écrit l'essentiel de son œuvre entre les années 30 et 50. Mmh. Et le problème, c'est qu'il a quitté la France. Bon, parce qu'il était apatride, marxiste et juif, donc ça faisait 3 bonnes raisons pendant la guerre. Et il a vécu en Amérique, d'abord au Venezuela, au Mexique, puis aux États-Unis. Et donc on l'a complètement oublié, alors qu'il avait tout de même eu le prix Renaudot en 1939. C'est un grand auteur, hein, Malaquais, un grand auteur, qui était cité par les critiques d'ailleurs dans les années 30. Et donc il est tombé dans l'oubli. Et dans les années 80, c'était donc, comme je le disais tout à l'heure, très difficile de se procurer les ouvrages de Malaquais. Or, un grand ami de la famille des Malaquais, qui s'appelle Jean-Pierre Catherine, a eu l'excellente idée, dans les années 90, de se dire qu'il faudrait rééditer Malaquais, le faire connaître. Et il a démarché un certain nombre d'éditeurs avec le manuscrit des Javanet, enfin avec les Javanet. Hein. Notamment, il est allé voir Jean-Pierre Sicre aux éditions Phébus, et il lui a proposé de rééditer les Javanet. Jean-Pierre Sicre a été emballé, a accepté. Donc, il y a eu une nouvelle édition des Javanet en 1995, revue et corrigée par l'auteur, parce que Malaquais a revu ses écrits.
Oui, tous les écrits, les a repris.
Et ensuite, en 97, a paru le journal de guerre suivi de journal du Métèque, puis Planète sans visa. Malaquais était mort, là, mais Planète sans visa. Puis Le Gaffeur, qui sont 2 autres romans de Malaquais. Puis un ami de Malaquais, Guy Sabatier, parce qu'en fait, l'histoire de Malaquais, c'est l'histoire d'amis aussi. Hein. Donc, a fait connaître La Courte Paille, une pièce de théâtre de Malaquais. Et,
sur l'atome.
Sur l'atome, oui, sur l'atome, sur la bombe atomique. C'est une pièce très, tout à fait d'actualité. Mais comme tous les écrits de Malaquais, d'ailleurs, hein, on y reviendra, je pense. Et ensuite, nous avons exhumé en quelque sorte les poèmes de Malaquais qui ont paru en partie dans une revue qui s'appelle Caravane. Et nous avons proposé, donc ce soir, nous allons proposer la lecture de tous ces poèmes qui sont rassemblés dans un même recueil. Voilà. Illustré par Gilbert Fontanet.
Alors, maintenant, ça c'était la rencontre. Il vient d'où, Malaquais? Parce qu'il y a le terme métèque qui apparaît très souvent. Alors, il apparaît dans les bouquins, il apparaît sur lui, tout le monde parle du métèque, des métèques en général. D'ailleurs, il n'y a pas que lui, il arrive d'où? D'abord, ce n'est pas son nom.
Non, ce n'est pas son nom. Je tiens tout de même à dire que Malaquais se revendique pleinement de cette métèquerie, si je puis dire.
C'est ça, oui, c'est ça, il en parle constamment et on le voit constamment.
Il est apatride par conviction. Mais il est né en 1908 à Varsovie.
Ah, c'est marrant, parce que d'habitude, les métèques, on voit plutôt ça dans le sud. Mais là, c'était pas ça.
Et non.
Ben, ils vont parler des gens du sud, ils vont en parler quand même.
Hein. Il va parler des gens du sud, parce qu'en fait, il va bourlinguer, il va rencontrer toutes sortes de gens. Et les gens du sud, bien sûr, il va les fréquenter quand il sera en France, notamment. Mais donc, il est né en 1908 à Varsovie. On sait très très peu de choses, évidemment, hein, de sa vie. D'abord parce qu'il parlait très peu de lui. Il ne nous a pas beaucoup parlé à nous, Georges et moi, mais il parlait aussi très peu de lui à sa femme et à sa fille. Très peu de son passé, très peu de lui en général. Et il se livre même peu lorsqu'on lit son journal de guerre, bon, il dit ses émotions face à la guerre, ses sentiments, ses convictions, mais il ne raconte pas son passé. Donc on connaît très peu son passé.
Oui, ce qu'on sait, il vient quand même d'une famille un peu intellectuelle, par rapport au père.
Voilà.
Il ne vient pas d'un sous-prolétariat quand même.
Non, non, non. On sait que son père était professeur de latin grec.
Ça laisse des traces en général.
Voilà, ça laisse des traces. En plus, il était donc issu d'une famille juive non pratiquante. Son nom est Yann Pavel Vladimir Israël Pinkus Malatsky.
Bon. C'est difficile. Alors, sur la carte de visite.
Yann Pavel, c'est le prénom polonais. Vladimir, c'est le prénom russe, puisque la Pologne a été, enfin Varsovie notamment, a été sous domination russe jusqu'en 1918. D'ailleurs, au début, Malaquais signait ses écrits Vladimir Malatsky. Et Israël Pinkus révèle ses origines juives. Des origines d'ailleurs qu'on a, enfin un prénom plutôt qu'on a découvert très récemment. Hein. Même sa mère, sa femme et sa fille ne savaient pas que Israël Pinkus était véritablement porté, était des prénoms portés par Malaquais.
Elle pensait que c'était un canular que Jean leur avait fait.
Voilà. Bon, c'est dire aussi que justement, il était profondément athée, il ne tenait pas du tout à insister sur ses origines, ses racines, parce que pour lui, ça n'avait pas vraiment de sens.
Oui, puis sa mère, je crois, était socialiste aussi.
Voilà, alors sa mère a été militante du Bund, hein. Elle était donc socialiste, internationaliste aussi. Elle était fille de médecin. Son père était donc, on l'a dit, professeur de latin grec, mais ce qui veut dire qu'ils étaient profondément assimilés, hein, parce que pour des juifs d'origine, enseigner le latin grec, c'était plutôt une preuve d'assimilation. Et donc Malaquais, on sait qu'il a vécu dans ce milieu intellectuel, probablement traversé par les idées socialistes, déjà par la mère, puis par les événements, tout simplement, parce que 1908, bon, il avait donc 9 ans, au moment de la révolution russe, en 1917, et c'est évident que cette révolution a eu des échos très puissants chez le jeune Malaquais, qui était déjà rebelle. À l'âge de 13 ans, il a commencé à écrire, peut-être même avant, mais enfin, il a commencé à écrire des poèmes en français. Il avait choisi le français. C'était un mariage d'amour, dit-il. Ça a été un impératif absolu pour lui d'écrire en français.
Oui, mais c'était... une certaine aristocratie avait l'habitude aussi du français.
C'est vrai, mais
traditionnel un peu.
C'est vrai, mais il expliquait qu'il parlait très bien l'allemand, il était peut-être même plus doué en allemand, il aurait pu s'exprimer en allemand, il avait choisi le français. Et donc, à 13 ans, il s'est mis à écrire des poèmes qui s'appelaient Abîme, Vertige, Précipice. Hein, c'est dire tout le romantisme et aussi, en même temps, tout le désarroi de ce jeune adolescent face au monde. Et bon, il a suivi des études finalement, qui pour l'époque était assez poussé, puisqu'il a obtenu son baccalauréat. Je pense qu'à l'époque, en 1925, il ne devait pas y avoir beaucoup d'enfants, de jeunes, hein, capables d'obtenir la matura, le baccalauréat en Pologne. Il jouait beaucoup aux échecs, il adorait les échecs. Il lisait énormément. Et sans doute, ses lectures, Jack London, Knut Hamsun, l'ont influencé et lui ont donné vraiment envie de découvrir le monde. Il disait, il faut absolument que je découvre le monde avant qu'il ne disparaisse. Et donc, en 1925, avec son bac en poche, il a décidé de quitter la Pologne et de bourlinguer, de partir un peu partout. Donc il est allé d'abord en Roumanie. Alors, il expliquait qu'il avait vendu sa collection de timbres pour des clopinettes. Et donc, avec un peu d'argent, il est parti, il a bourlingué, il a vécu en faisant toutes sortes de métiers, de petits boulots. Il a été ouvrier, manœuvre, docker, matelot.
Bon. Il a fait du cirque.
Il a fait du cirque, oui. Et donc, il a traversé l'Europe, il est allé jusqu'en Égypte, en Palestine.
Il était relativement jeune à l'époque.
Il était jeune, il avait 17 ans, oui. Il avait 17 ans. Et puis il est venu en France, parce que la France était tout de même, pour lui, la destination importante. C'était le pays où il fallait aller. Il dit, c'était le pays où il fallait vivre, parce que c'était le pays de la Commune. C'était le pays de la Révolution française, de la Commune de Paris. Bon, il y croyait, hein, à la France terre d'accueil, et il a déchanté. Il a vraiment déchanté.
On se fait un petit texte qui est prêt à lire un petit morceau.
Oui. Île de Java s'anime. Des voix filtrent à travers les cloisons disjointes des masures. Des hommes sortent sur le pas de leur porte, l'œil humide, le goût du rêve dans la bouche. Une mélopée d'autrefois s'échappe d'une sorte d'étable, flanquée contre le mur à demi écroulé d'une ancienne fonderie. C'est le bateau lavoir, ainsi nommé pour le bouillonnement de chaudière qui jamais n'y relâche. Une vingtaine d'hommes y logent, chacun son chalit à soi, bien mieux que sur les galères d'antan. 20 hommes qui se comprennent à l'aide d'un parler fait de toutes les langues, et qui n'est d'aucune, étant celui de Java. Souvent, l'étable change d'hôte. Souvent, le bateau varie d'équipage. Mais, surpeuplé ou non, là-dedans, ça gueule et ça feule. Quand les Javanais disent qu'il y a réunion au bateau lavoir, c'est que le bateau vire de bord, c'est qu'il gondole et craque aux entournures. Quelques enfants à peine culottés sont à leur jeu de billes. Retour du marché ou de la messe. Des Javanaises lavent des oripeaux au pied de la fontaine. Leurs hommes tournent en rond, glaviotent, dérivent, mettent le cap sur l'épicerie vin de Madame Michel à la double pesée. Dimanche, jour d'ennui, jour de cafard qui relève la tête. Que faire dans une île de Java ? Il flottante, il bâtarde, accroché à la queue du diable. « Me cago en Dios !» soliloque le javanais s'il est espingo. Ruskov, il soliloque « Yob tayou duchou !» Même mot, même râle pieux d'une langue à l'autre. Henri Lehoux, unique et véritable français à l'île de Java, reluque le poster des javanaises. « Sacré putain de bordel de merde !» se console-t-il. Ce sont des choses on ne peut plus convenables à dire. Elles amènent une bouffée d'air dans le trou d'eau morte. Il frotte ses paupières rouges, va chercher du doigt la chic dans sa bouche, en exprime le jus, la remet dans sa bouche. Le nègre, Hillary Hodge, libre citoyen de la libre Amérique, attaque un blues sur son cornet à piston. Il a sorti ses escarpins pour leur faire prendre la fraise. C'est dimanche, des escarpins vernis qu'il ne chausse plus, qu'il espère chausser un jour. Alors il leur fait prendre le frais sur le rebord de la fenêtre et il attaque un blues lent sur son cornet à piston. Il a été cornettiste dans un ensemble de jazz. Il chaussait des vernis, il portait un smoking blanc à revers cerise. Et maintenant, chut, il perd ses baloches par les accrocs de son froc. Le Polonais Thomas Warski fait le tour de l'île. Ça y est, Magda, sa femme, est à la maternité d'hier. Et ça y est, elle nous fabrique des jumeaux. Java n'en doute pas. Les Warski s'entendent en besogne. Il n'y avait qu'à voir la Magda bâtie sur le devant. Warski fait le tour de l'île. Des femmes s'affairent à hurler des langes. Tu verras le tam-tam. Deux franco-javanais tout neufs. Nous les ferons naturaliser à la mairie de Vaugela. C'est le Hou qui sera content. Il ne faut désespérer de rien. Henri Lehoux ne sera plus le seul Français de France à Java. Et Hillary Hodge, l'Américain, mettra peut-être ses vernis. De quoi se plaint-on ? C'est dimanche. Le soleil est à son poste. Les papillons batifolent dans la lumière oblique. La poussière monte sous le pied des moutards. Les gendarmes sont passés. Ils n'ont arrêté personne. Barbu jusqu'aux gencives, Zakharis Malinov expose au vieux Ponzoni, dit Babé Giuseppe, comment il a pris Nifni, Nishni, Novgorod à lui tout seul. Tout à l'heure, quand Malinov descendra de son cheval circassien, Babo Giuseppe, qui n'en a pas saisi un mot, ira porter la nouvelle aux pierres de la garrigue. Camo Aboudizian, l'Arménien, vide sa vessie derrière le bateau lavoir. Au bateau lavoir, ça fait boum! On s'y égosille, on veut la puque. La cheminée de l'ancienne fonderie veille sur le destin de l'île. Des hommes traînent à son ombre. D'autres se gargarisent la glotte à l'épicerie vin de Madame Michel. L'agronome Belski Fignol, son potager. Des femmes reviennent de la messe, l'âme sauve et les membres là. C'est dimanche, c'est Java. C'est la Côte d'Azur.
Un Chavanais en vadrouille déambule par les chemins ensoleillés de la colonie Bigorneau. Il a ramassé une tige de jonc, il fouette l'air avec sa tige de jonc et il siffle. Dans les cages aux persiennes verpes et épinards, des femmes mettent le nez à la fenêtre pour voir qui siffle de la sorte. Ayant vu, elles s'en retournent couver leurs œufs. Ça n'est qu'un Javanais de plus qui a déserté son travail. Karl vagabonde sur la route ensoleillée. Il fait des moulinets avec sa tige de jonc et il siffle. Les arbres s'inclinent sur son passage, des arbres aux bras solides et feuillus. « Salut, toi !» disent les arbres. « Salut, vous !» dit Karl. Il avait un frère que... Hans avait une sœur qui... Magnus a fait ses 26 ans. Dans Vienne, il y a des rues. Elles portent des noms à rallonge. Karl n'est pas dans les rues de Vienne. Il n'est pas non plus à rôder les soupapes de la Bugatti. Il déambule le long d'une route sans borne et il siffle éperdument. Le barde aveugle de Bagdad s'est tu. Il écoute son poème qui lui revient de l'autre versant de la terre. C'est un poème qui renonce les maisons blanchies à la chaux, les carrés de légumes, les mines, les usines. Un poème qui dit non et non au bonheur à la petite semaine.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, c'est la philanthropie de l'ouvrier charpentier, philanthropie autour de Jean Malaquais. Alors je vais faire 1908-1998, le Métèque. C'est pas le même, mais c'est celui-ci. On va continuer un peu pour justement essayer de comprendre qui était Jean Malaquais. Donc on a vu un peu son enfance, on a vu son départ à 17, et puis commence à voyager, et puis bien sûr il va arriver en France. Sur cette période, justement, on a vraiment beaucoup de détails. On ne sait pas trop ce qu'il y fait. Il voyage, quoi.
Il voyage. Donc, il quitte la Pologne en 1925. Il a 17 ans. Il voyage. Il fait toutes sortes de métiers. Et en France, il va rencontrer assez tôt, en 1927-28, Marc Chéric, qui va être son mentor dans le domaine politique.
Alors, qui va suivre toute sa vie, pratiquement.
Qui va suivre quasiment toute sa vie. Alors, Chéric fait partie de cette tendance politique qu'on peut dire d'ultra-gauche, hein, c'est-à-dire profondément anticapitaliste, révolté par la société de classe, mais en même temps qui prend des positions résolument antistaliniennes à une époque où le Parti communiste commence à être un peu hégémonique dans la classe ouvrière.
Il fait partie des oppositionnels, comme on dit.
Voilà, il fait partie des oppositionnels au stalinisme. Et Malaquais va trouver dans l'explication théorique de Chéric l'expression même de sa révolte, parce que Malaquais disait lui-même « Je suis né rebelle dans le ventre de ma mère ». Malaquais est un rebelle, et grâce à Chéric, il a une explication, quoi. Ça lui permet de mieux comprendre pourquoi le monde fonctionne aussi mal. Ça lui permet aussi de donner une raison à sa révolte et un aliment politique qu'il, d'ailleurs, fait vivre dans tous ses témoignages, dans le journal, et qu'on sent aussi dans ses romans, même si ce ne sont absolument pas des romans à thèse. Hein.
Oui, c'est ça. C'est important de le dire. Justement, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas un militant, c'est pas... Il sera compagnon autour du Parti communiste, bien entendu, et des oppositionnels au Parti communiste, mais il s'engagera jamais en politique, il sera présent, mais pas le militant, quoi.
Voilà. Ce sera un compagnon de route de l'ultra-gauche. Et anti-stalinien, et c'est pourtant curieusement par quelqu'un qui était très proche du Parti communiste que Malaquais va entrer dans le monde des lettres, puisqu'il va faire une rencontre décisive en 1935. Alors il continue à bourlinguer, à faire toutes sortes de métiers, etc. Et puis assez régulièrement, il vient à Paris. Et en 1935, il travaille aux Halles. À l'époque, il y avait encore le marché des Halles où on pouvait porter des cajots. Le soir, on s'embauchait et on avait un petit peu d'argent comme ça, hein, de quoi assurer la matérielle pendant quelques jours. Ouais. Et donc, il travaillait aux Halles. Et il faisait froid, c'était dur. Et donc, pour se réchauffer, aussi bien moralement que physiquement, il allait à la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui à l'époque était, comme aujourd'hui d'ailleurs, ouverte jusqu'à 22h. Et un jour, il tombe sur un extrait du journal de Gide, qui date de mars 1935. dans lequel Gide déplore de ne pas avoir eu à gagner son pain à la sueur de son front.
Je vais lire aussi encore une petite phrase, parce que c'est vrai que je sens aujourd'hui gravement, péniblement, cette infériorité de n'avoir jamais eu à gagner mon pain, de n'avoir jamais travaillé dans la gêne. Un temps vient où le bourgeois se sentira en état d'infériorité devant un simple travailleur. Ça fait mal, ça.
Alors, ça
parce
fait
que là,
très,
il va lui rentrer dedans directement.
Complètement, parce que alors là, Malaquais qui est obligé de gagner sa croûte, qui trime, qui voit à quel point c'est pénible, qui veut écrire lui-même, il voudrait écrire, Malaquais n'a jamais cessé d'écrire, et qui se dit, mais je ne peux pas, j'ai pas le temps, je suis bouffé par le quotidien, je suis crevé, je j'ai pas le choix, quoi. Hein. Lire cela, il se dit, mais enfin, tout de même. Hein. Alors, en plus, il faut savoir aussi ce que représentait Gide à l'époque. Hein. Gide, c'était un monument, c'était famille je vouais, c'était l'expression de la rébellion aussi pour toute une génération dont Malaquais faisait partie. Donc il est extrêmement en colère, il est indigné, et il décide de téléphoner à Gide pour lui dire sa façon de penser. Parce qu'il pensait que c'était facile, à l'époque, dans son imagination de jeune homme, de prendre le téléphone d'avoir directement comme ça Gide. Donc il appelle la revue Vendredi, où Gide écrivait, et il demande à parler à Gide, on lui dit « Monsieur Gide n'est pas visible, bien, n'est pas là », donc il lui écrit. Il lui écrit une lettre où il l'incendie littéralement, où il lui dit que c'est vraiment scandaleux. Et du coup, Gide répond en étant tout à fait désolé et en envoyant du même coup un mandat de 100 francs.
Ce qui est quand même relativement vexant.
Et voilà.
Malaquais, il supporte mal, d'ailleurs, il lui renvoie, je crois.
Et donc, Malaquais déchire le mandat. Lui renvoie une lettre là en disant « Mais enfin, je ne demandais pas l'aumône, qu'est-ce que ça veut dire ?» etc. Donc, très dit « Vous m'avez humilié. » Du coup, Gide répond en disant « Mais je ne voulais absolument pas t'humilier, camarade. Hein, » au contraire. Et lui dit aussi « Bien écoute, si tu veux, passe me voir, rue Vaneau. » Et là, Malaquais va rencontrer Gide, rue Vaneau. Alors, je crois que ça se passe en janvier 1936, la première rencontre a lieu à ce moment-là. Malaquais racontait que Gide s'était fait beau. Alors, il faut quand même voir qu'à l'époque, Gide avait 66 ans, Malaquais 27 ans. Hein. Et il accueille Gide en lui disant « C'est toi Malaquais, du coup, c'est toi Malatsky, parce qu'à l'époque il s'appelait Malatsky. » Donc Malatsky répond « C'est toi Gide ?» Et il paraît que dans tout Paris, on se demandait qui était ce péteux qui se permettait de tutoyer Gide, puisque, évidemment, Gide, c'était, comme tu le disais, un monument. Et Malatsky va expliquer à Gide qu'il a toujours écrit, et va lui confier un manuscrit en lui disant « Dis-moi ce que tu en penses. » Et là, Gide va dire à Malatsky qu'il maîtrise mal la langue française, qu'il y a des images qui sont vraiment des clichés.
Il faut quand même que le maître soit là.
Exactement. Et d'ailleurs, dans la correspondance que nous avons éditée entre Gide et Malaquais, qui est parue en 2000 aux éditions Phébus, eh bien, on voit que Malaquais commence ses lettres à Gide en disant « Cher maître ». Au début, c'est des camarades, ensuite, c'est « Cher maître ». Et il y a cette relation de maître à disciple entre le grand bourgeois et le prolétaire rebelle, qui va d'ailleurs un peu se transformer, parce qu'en réalité, leur relation va se transformer en une véritable amitié.
Oui, puis je crois que Gide va lui proposer une maison pour qu'il puisse aussi écrire tranquillement et tout.
Voilà, ils vont devenir amis. Gide va faire connaître Malaquais, auprès d'un certain nombre de journaux. Il va le présenter à Jean Cassou, à Martin Chauffier, donc à des directeurs, à Jean Pollan, des directeurs de revues de l'époque. Et Malaquais donc va voir sa première nouvelle, Marianka, qui décrit un pogrom, paraître en 1936 dans la revue Europe. Et puis ensuite, d'autres nouvelles paraîtront. Et ces nouvelles, on peut aussi les trouver dans un recueil de nouvelles qui s'appelle Coup de barre. Et ce sont des nouvelles très intéressantes, parce que déjà, on sent là le style de Malaquais qui se déploie dans tous ses registres, qui passe du lyrisme à l'ironie, et qui explore tous les thèmes aussi qui vont être ses thèmes de prédilection. Évidemment, l'internationalisme, comme on l'a entendu, mais enfin, on y reviendra.
Oui, Javanet, L'internationalisme, il est bien là, hein. il est monstrueux, de présence.
Il est monstrueux, mais Malakai...
Ça va des Polonais aux Arabes, parce que c'est pas toujours fait très bien déterminé, ça va les Russes, tout le monde est là, quoi.
Voilà, tout le monde est là, tout le monde est là, et tout le monde est là, va pouvoir traverser des frontières qui étaient vraiment les ennemis, hein, qui sont toujours les ennemis, hein, des travailleurs, et Malakai le montre parfaitement bien dans les Javanais. Il montre que la grande force, justement, du monde du travail, la grande force de la classe ouvrière, c'est d'ignorer ses frontières, c'est d'être rivé à la même chaîne, c'est de travailler dans cette mine, c'est de connaître des conditions d'existence misérables, mais en même temps, c'est cette capacité de résistance extraordinaire. Parce que dans les Javanais, il y a une vitalité, il y a une jeunesse, il y a... La joie, tout à fait. Il y a la joie de ces ouvriers qui partagent la peine, mais qui en même temps partagent de bons moments. Alors, au café de la double pesée chez Madame Michel, ou le dimanche, comme on l'a entendu dans la lecture, ou lors des balades, hein, comme on l'a entendu aussi dans une autre lecture. Bon, les ouvriers sont capables de vivre en bonne intelligence et sont capables de communiquer.
Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. L'espéranto, ils l'ont créé sur place. Hein.
C'est ça. Ça s'appelle le Java.
Bah oui,
ça,
parce qu'en fin de compte, ils arrivent de lieux différents. C'est quand même un sous-prolétariat qui n'a pas forcément fait beaucoup de langues. Et pourtant, ils arrivent à se comprendre.
Voilà. Et ça, ils arrivent à se comprendre à l'aide d'un parler fait de toutes les langues, nous dit Malakai. Hein, c'est le Java. Et ce sont les Javanais, comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit des ouvriers qui travaillent sur un chantier, ils viennent probablement de pays différents, ils se comprennent. Et c'est en quoi, d'ailleurs, Malakai est un contemporain capital, je dirais. Son œuvre est absolument... à lire d'actualité, elle nous parle aux tripes aussi, parce qu'elle raconte la condition de la classe ouvrière aujourd'hui, hein, notre époque encore.
Et, si je peux me permettre, les Javanais, c'est comme dans Rabelais, on rit. C'est pour ça, tu disais tout à l'heure, c'est assez proche de Céline d'une certaine façon, mais Céline est désespérée, tandis que chez Malakai, c'est des ouvriers qui ont le monde devant eux. Et on rit avec.
Alors, je propose qu'on parle un peu quand même de les Javanais, parce que là, les Javanais, c'est un bouquin qui est très important. Bon, le thème, c'est une mine.
Voilà, une mine délabrée.
Dans le sud de la France.
À Lalonde-les-Morts, en Provence. D'ailleurs, la ville de Lalonde-les-Morts a fait de Malakai son citoyen d'honneur, après.
Oui, juste à côté de l'arsenal et des militaires.
Voilà,
que Lalonde, c'est pas mal à ce niveau-là.
Juste à côté de Toulon.
Oui, oui, bien sûr.
Absolument. Et donc c'est une mine totalement délabrée.
Plomb et argent.
Argent. Et argent, mais qui, au début du XXe siècle, était une mine prospère. Hein,
qui elle pouvait être prospère, vu que les gens n'étaient pas payés de toute façon pour bosser. Après, il ne restait qu'une différence.
Voilà. Sauf que là, on arrive à une période où la mine est un peu à bout de souffle, hein, en fin de course.
Oui, hein. Puis il faut parler du patron de cette mine.
Le patron de cette mine, c'est un Anglais. Oui, c'est un Anglais. En fait, il y a eu un accident de voiture. Il a fallu absolument l'indemniser. Donc la mine des Bormettes a trouvé que c'était judicieux de nommer cet Anglais à la tête de la mine.
Oui, parce qu'à la base, c'est un minable, hein, quand même.
Absolument. C'est un type qui n'a aucune envergure et qui va diriger, enfin, si on peut dire...
Même pas bon pour l'armée, en plus.
Voilà. Donc, il va diriger, si on peut dire, la mine. En réalité, il boit beaucoup. Ça l'intéresse absolument pas. Donc, la mine vit sa vie comme elle peut. Les mineurs travaillent dans des conditions absolument lamentables. Mais il faut savoir que Malakai a probablement travaillé dans cette mine. Hein. D'ailleurs, Trotsky le notait dans sa critique. Hein. Oui, Malakai a travaillé. Et Trotsky le dit dans sa critique, dit que seul un ancien mineur peut décrire une mine comme il le fait, puisque on sent que il connaît le travail, que il sait ce que ça veut dire extraire du minerai dans des conditions très difficiles. Voilà. Donc nous avons tous ces Javanais qui viennent des quatre coins du monde pour gagner 3 francs 6 sous. Ils se retrouvent dans cette mine de Java qu'ils ont appelé Java, le romancier a baptisé Java, hein. Et travail, il y a un éboulement d'ailleurs. Il y a des morts. Là aussi, hein, du vivant de Malakai, il y avait eu un semblable accident, hein, dans la mine. Et il y a un vol aussi qui est commis par un certain Yakovlev. Il y a beaucoup trop de problèmes. Les étrangers, tout de même, ça pose problème. Hein, la population...
Oui, surtout que pendant longtemps, c'est un peu protégé par les flics du quartier et tout, parce que ça marche bien, mais... Il y a une rupture.
Voilà. Et donc, il faut fermer cette mine. Ça suffit. Il faut se débarrasser de ces gens. Hein. Il faut en finir. Donc, décision, il faut fermer la mine, et la décision tombe sur tous ces Javanais qui décident de ne pas se laisser faire. Il y a Karl qui prend la direction des opérations, mais comme il dit, il n'y a pas de meneur dans notre groupe. Hein. Bon, simplement, il se fait le porte-parole de ce groupe d'apatrides, d'ouvriers exploités, et il décide d'aller voir le directeur de la mine et de demander de pouvoir repartir sans avoir de tracas avec la police, sans être inquiété, et deuxièmement d'être payé pendant une semaine complète. Voilà.
Et il ne voulait pas les acédiques aussi
pourquoi pas. Et donc pour l'époque, c'était effectivement peut-être des revendications d'importance, mais il ne faut pas oublier que le roman a été conçu dans les années 36-37, d'ailleurs dans une période d'ébullition sociale, ô combien profonde en France, et que bon, il a été aussi conçu et écrit par un auteur qui était pleinement du côté des exploités. Bon. Et donc la lutte s'organise, alors c'est merveilleux parce que on occupe la mine, parce qu'on découvre cette mine sous un autre aspect, comme à chaque fois qu'on occupe une entreprise, un lieu. Et finalement, le directeur de la mine, qui n'en a jamais eu grand-chose à faire de cette affaire, et qui de toute façon ne veut pas en plus avoir un problème avec ces mineurs qui ont l'air très déterminés, décide de lâcher, et donc les Javanais partent. Et là, il y a un très très beau passage qui est à la fin, je ne sais pas si on peut le lire, hein, qui est, je trouve, très beau, qui raconte justement comment ces apatrides quittent Java.
Puis c'est le terminus. Tout le monde descend. Il n'y a plus rien à raconter. En 3 jours de passe-passe, île de Java a été soufflée comme une fleur de pissenlit au vent. Atropos Laparc y a fait une halte avec son ablateur pour queue de mouton et ses fris flambés. Allez vous faire voir ailleurs. Comme la nappe les roses, cette plaie qui fait naître de nouvelles chairs, Java Côte d'Azur a changé de cap, sans virer de bord. Porteurs de germes, les Javas sont partis essaimer d'autres îles. Autres, et toujours les mêmes. Les Pandars sont partis qui galvaudaient 20 000 francs hippico par semaine entre Vaugelas et la double pesée. Ils sont partis, emportant leurs millions annuels, ces caqueuses erratiques en quête de fourrière. Ils se sont décanillés, cul par-dessus tête, dans la vase cosmique. Et au pied de la cheminée, et sous le clapotis de la fontaine, ils ont laissé leur évocation d'excommuniés qui reviennent et se font vampires.
Voilà, leur évocation d'excommuniés qui reviennent et se font vampires, parce que les apatrides, de toute façon, reviennent et se font vampires, parce que les ouvriers, quelle que soit leur nationalité, leurs frontières, reviennent, parce qu'ils sont obligés de traverser les frontières pour survivre, parce que notre monde, de toute façon, a hérissé ces barbelés qui sont absolument lamentables, hein, ces frontières qui sont lamentables, qui sont criminelles, qui sont barbares, et Malakède a eu de cesse de les dénoncer, non seulement en s'attaquant justement à l'immigration pour montrer combien elle était positive, hein, à travers ce livre Les Javanais, son premier roman. Là, c'est une immigration économique, mais aussi en montrant que nous sommes tous des immigrés, même sur le plan politique. Et ça, c'est le thème du deuxième roman, Planète sans visa, où il va montrer que l'immigration, de fait, elle a été forcée pour des millions d'individus, d'opposants, de juifs, d'apatrides, hein, qui étaient obligés de quitter l'Europe s'ils ne voulaient pas fertiliser de leurs cendres les sillons du Troisième Reich. Bon, enfin, ça, c'est une autre histoire.
C'est un peu la suite. Juste une chose, est-ce qu'on peut dire que c'est un écrivain engagé ?
Oui, je pense qu'on peut dire qu'il est engagé. Il est engagé et en même temps...
En utilisant la forme du roman, hein, ça c'est pas du tout gênant. Il y en a d'autres qui l'ont fait et qui étaient engagés à travers des romans. On n'a pas besoin de faire des écrits politiques pour être engagé.
Voilà, je pense que c'est un écrivain engagé, dans le sens où il a choisi des thèmes que la littérature consacrée, et la vie d'ailleurs, en général, ne traite pas. Enfin, ne traite pas, je veux dire, ne considère pas les thèmes, la faim, l'exil, la guerre, le travail, l'exploitation. Donc, de ce point de vue, il est engagé. Mais je pense, encore une fois, que Malakai n'est pas un romancier à thèse. Hein, c'est d'ailleurs sa grande qualité, c'est son indépendance de ce point de vue-là. Il n'était pas engagé dans un parti enrôlé, pas du tout. Et donc, le roman Les Javanais le montre, hein, parce qu'il y a une grande... indépendance. Hein. Il laisse d'ailleurs une grande indépendance aussi à ses personnages. Hein, ces personnages roulent leurs idées chacun dans son coin. On suit les pensées de l'un, de l'autre. On n'a pas le narrateur omniscient là qui donne l'autorisation à tel ou tel personnage d'agir. C'est une liberté totale. C'est le démiurge qui permet à ces personnages de vivre leur vie. Hein. D'ailleurs, Malaquais disait que pour savoir si quelque chose était vrai, il devait le sentir bouger à la pointe de sa plume, et c'est tout à fait ça. On sent que tout ce monde vit, bouge, s'exprime, s'anime, et en même temps, tout ce monde communique, parce que je pense que les Javanais, c'est en même temps un chant du monde. C'est une communication extraordinaire entre les hommes qui passe donc par la circulation des langues et par toutes ces vies, ces bagages culturels qu'ils transportent. Et d'ailleurs, Gide avait, s'était dit, considérablement épaté par le livre, puisque le premier lecteur averti des Javanais a été André Gide, bien sûr. Gide a dit à Malaquais, tu y atteins un lyrisme extraordinaire. C'est vrai, c'est un livre joyeux, comme disait Georges, et en même temps lyrique, et en même temps avec une douce ironie. Malaquais est toujours bienveillant à l'égard de ses personnages et très humain. Et le livre, donc, en 1939, va être consacré, puisque Malaquais reçoit le prix Renaudot. Le problème, c'est que 1939, c'est une mauvaise pioche.
Il n'est pas là.
Et oui.
Il n'est pas là hein, quand il a le prix Renaudot.
Et non, il n'est pas là, parce que bien qu'apatride...
Il est enrôlé.
Il est enrôlé. Et donc il va apprendre que on lui a décerné le prix Renaudot alors qu'il est à la guerre, dans cette drôle de guerre, hein, vous savez, où il se passe pas grand chose, où il est obligé de fréquenter des pionniers qui sont en général pas mal imbibés d'alcool. Il a un peu de mal d'ailleurs, hein, vivre au milieu de cette chambrée, mais bon. Bah, c'est la guerre, et il découvre donc qu'il a le prix Renaudot. Alors là, on avait une lecture qui est...
Oui.
Georges, tu veux bien nous lire
Bien sûr. 11 décembre 1939.
Alors, excuse-moi, 11 décembre 1939, c'est donc le journal de guerre, donc Malaquais est à la guerre. Vas-y.
Hier soir, vers 8h, couché dans le foin de ma plateforme, je feuilletais un Prévôt Paradol à la lueur d'une chandelle quand j'entends appeler mon nom. J'étais seul dans la grange, les autres étant en vadrouille ou en train de vider un pot. Vite, j'éteins, il est interdit de s'éclairer dans les granges, saute de mon perchoir, me glisse dehors. Pinceau de lumière dans un noir de four, galopade, appelle « Malaquis ! Mal au cul !» L'idée à la fois infâme et grisante me frappe qu'enfin la guerre nous empoigne aux tripes. Un gradé me déniche sur le seuil de la grange, m'aveugle avec sa torche électrique, me tombe dessus à coups de gueule furax. Où que t'as été te planquer, bougre d'emmerdeur ? V'là une demi-heure qu'on te cavale après. Allez, fais fissa, nom de Dieu, y a le colon qui te réclame. Deux ou trois autres gradés le rejoignent, brandissant leurs torches, aboyant tous à la fois. Qu'est-ce que t'as encore foutu comme connerie pour que le colon se ramène de son caisse-castel avec toute une smala ? Je cours sur le talon des sergots, derrière les feufelets de leurs lampes, me demandant ce que j'ai encore foutu comme connerie pour que le colonel en personne se dérange de son PC distant de 40 ou 50 kilomètres. J'avance donc au pas de course, en queue de ces types qui jurent et pestent et appellent les foudres du conseil de guerre sur ma tête. Ils s'engouffrent en trompe, moi à leur suite, dans un couloir qui donne sur le mess des officiers où je me heurte de plein fouet à un personnage courtois et casqué. La porte du mess s'ouvre, je freine des quatre fers et je hoquette. Hoquette, fichtre, pourquoi ? Pardon, mon adjudant. Alors l'autre, le bedon, une main gantée devant la bouche. Colonel, mon colonel. C'était la radiodiffusion nationale. Elle me cherchait, moi, le lauréat, l'homme du jour, cherchait depuis 2 heures un Renaudot, dit Malaquais, Jean, quidam apparemment chimérique et pour cause, son patronyme vrai et véritable, le seul connu et reconnu de l'armée françoise, étant Maletsky, nom de Métek à la noix. Bref, la radiodiffusion a donc couru après le 620e régiment de pionniers. Puis après le colonel du dit régiment, puis le colonel et la radiodiffusion après la 11e compagnie, puis le colonel et la radiodiffusion et le capitaine B de la 11e compagnie après les sous-officiers de mes bataillons et sections, puis ceci après mes zigs. Mais enfin, bon, il me tenait. Il y avait foule dans cette salle de messe, des galonnards jamais vus, des gradés frétillants d'aise, salutations et shake hands, toute une foire sur la place. Des techniciens s'affairaient, charriaient leur matériel, déroulaient des câbles. Puis ne voilà-t-il pas le colonel face au micro, talon joint et le verbe pompeux déclinant, conjuguant honneur, patrie, devoir, discipline ? Vint enfin l'énorme, le puissant Dedon, capitaine de la 9e compagnie, orateur chevronné, lui. « Quoi qu'en dise la propagande ennemie, énonça-t-il haut et clair, nous ne comptons pas uniquement des cambroussards parmi nos braves pionniers, nous y comptons aussi, Dieu me pardonne, des ci-devant parlementaires, c'est lui, des membres du barreau, c'est encore lui, et même des écrivains, devinez qui. Le capitaine B, décidément bien, s'est défilé. Quant à moi, du foin plein les coutures, un peu ahuri, un peu ébloui, apprêté, cuisiné par deux lieutenants qui puaient leur deuxième bureau. Je me mordais la langue pour ne pas dégoiser des platitudes patriotardes. Toujours est-il que, la farce à peine terminée, j'ai pris la tangente pour aller rager de honte dans le fourrage de ma litière.
Take me now, baby, here's I am. Pull me close, trying to understand. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste et la philanthropie de l'ouvrier charpentier.
Chariot, camion, fantassin, civil. 10 pas, un arrêt. 15 pas, un arrêt. fatras de matériel, obus, munitions, roulantes, barbelés, conserves, tout un saint frusquin d'intendance à l'abandon, alors que la veille encore, la moindre bricole exigeait son pesant de paperasserie. À contre-courant, je trébuchais, ivre de fatigue, de soif, et ça claquait alentour, ça vrombissait dans les airs, et des gars chaviraient debout, et d'autres épaulaient vers la cime des arbres, et mon fusil me rompait le dos, et ma baïonnette se prenait dans mes jambes, et me voilà-t-il pas que je m'étale tout de mon long, la tête la première contre un nœud de racine. Sonné, étourdi, rampant en quête de mon casque parti je ne sais où, je me découvre, miracle des miracles, en plein sur un parterre de fraises des bois. À plat ventre, prenant appui sur mes coudes, suant dans ma capote à en perdre la vue, une à une, je les cueillais, avec précaution, avec retenue, comme s'il y allait d'essences infiniment rares, infiniment radieuses, au cœur de la folle sarabande des agonies. Fraises des bois. Lentement, religieusement, une à une je les portais à mes lèvres, de la main gauche et de la main droite, et plus rien n'avait d'importance, la vie, ni la mort, ni le filet de sang qui coulait de mon front dans mes yeux, que je tâtais pourtant de mes doigts crasseux. Je suis restée là 12 heures, 3 heures, je ne sais, les cueillant et savourant une à une, et je rampais en m'aidant des coudes, et je me barbouillais le museau de fraises, et le peuple de France clopinait, ça pétait le feu et le sang, et je rampais vers le nord, vers Croix-Mar, vers d'autres petits plans de fraises des bois, tandis que là-haut, à bord de leur ferblanterie étincelante, de blonds automates vomissaient des capsules marquées de la croix gammée. Alors, finalement, peut-être parce que l'enfer me boudait, ou parce que j'en avais mon plein de fraises des bois, j'ai ramassé mes os et me suis mis à aller sur la corde de la vie.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, c'est la philanthropie de l'ouvrier charpentier. Philanthropie toujours autour de Jean Malaquais. Là, c'était pas les Javanais. Alors, d'où vient ce texte ?
Alors, ce texte-là, il est tiré du journal de guerre. Qui est un très beau livre de Jean Malaquais. Il a pris des notes au cours de son régiment. Bon, c'est peut-être, il les a peut-être retravaillées après, mais toujours est-il que c'est un des plus beaux journaux qu'on puisse lire, parce qu'il est dépourvu de tout héroïsme, de toute réflexion à la noix. C'est vraiment un homme aux prises avec ses peurs, son dégoût de ce qu'on lui fait faire, du patriotisme, de l'ambiance malsaine qui règne dans une armée, bon... Et c'est un texte très grinçant dans lequel il va jusqu'à expliquer, on a dit que Malaquais était venu en France par amour de la Révolution et de la Commune, et à la fin, quand il quitte l'Europe, quand il est obligé de quitter l'Europe, eh bien Malaquais a fait son deuil. Les derniers mots, c'est « Adieu Marianne, mon amour, ma catin », et parce que voilà, il a fait son deuil de la France, qui n'est absolument pas le pays de la liberté, des droits de l'homme, qui est le pays où on arrête les métèques de son genre, et là, en 40, le pays où tout le monde, que ce soit la police française, la police allemande, la Gestapo, est sur le point de les transformer, comme disait Geneviève, en cendres. Donc voilà ce qu'est le journal. C'est... un livre difficile à lire parce qu'il est impitoyable, mais magnifique parce qu'il y a des notations. D'ailleurs, à l'époque, il est très ami, et on va en parler un peu plus avec Victor Serge, donc, pour qui il avait une admiration énorme. Et on retrouve dans le journal de guerre la brièveté des notations, la qualité du style, énormément de ce qui fait aussi la beauté du style de Victor Serge, cette précision, même dans la description d'un ciel, d'une atmosphère... des gens, de ce qu'ils ont dans la tête et tout ça.
Quand tu parlais des journaux, entre autres, moi, ça me rappelle quand même une autre personne qui a fait un journal dans le Jura qui s'appelait Léon Werth, et qui a fait un monument justement sur l'occupation et justement sur toutes ces petites choses qui passaient où tout le monde était dedans. Et Léon Werth en avait fait un justement aussi qui était assez magnifique. Assez magnifique. Donc ça, c'est le journal. Donc qu'est-ce qui s'est passé là ? Parce qu'on... Alors déjà, on a oublié une époque, c'est 36. Tiens, on a zappé 36, on est passé en 39, mais c'est pas grave. Alors 36, qu'est-ce qui se passe ?
Bon, alors
36... pas qu'est-ce qui se passe en général, parce que là, on en a pour une quinzaine d'heures, au minimum. Mais qu'est-ce qui se passe par rapport à Malaquais ?
Malaquais décide d'aller en Espagne. Non pas parce qu'il veut s'enrôler dans les troupes républicaines, Malakai ne croyait pas à la politique du Front Populaire, loin de là. Il sympathisait non plus pas véritablement avec le POUM, même si il avait probablement plus de sympathie pour l'extrême-gauche poumiste que pour les staliniens, ça c'est clair. Mais donc il part en 1936, en fait en 1937, c'est un peu vers la fin hein, de la guerre d'Espagne, enfin, c'est le début de la fin quoi, peut-on dire. Et il va s'enrôler dans des brigades internationales, mais qui étaient sous commandement plus libertaire, disons. Bon. Et donc il va rencontrer des ouvriers, des paysans, il va écrire des notes. Pour le moment d'ailleurs, ces notes sont inédites, on les a découvertes tout à fait par hasard. Et il faudra en faire quelque chose. Et donc, il va rendre hommage à cette population qui se bat, et malheureusement, qui ensuite va se faire démolir, puisque on sait qu'il va y avoir la décision de faire entrer ces armées dans l'armée régulière et de réprimer ensuite la population espagnole, comme on le sait, avec la complicité d'ailleurs des partis socialistes et staliniens. Donc, voilà.
Très nettement.
Très nettement.
Donc, journal de guerre, après la guerre, deuxième roman, Planète sans visa.
Ah oui, mais il y a le deuxième roman, il commence à l'écrire quand il part. Donc, il y a 42, il se retrouve à Marseille, sur le point d'être arrêté par tout le monde. Les staliniens lui couraient après.
Il a été hébergé à un moment chez Giono, je crois.
Il a été hébergé, alors il a eu des tas d'aides comme ça. Après Gide, il y a eu Giono. On a été dans la petite bergerie où probablement il a passé un certain temps. Et puis au bout du bout, avec sa compagne Gali, n'ayant plus d'issue, ils arrivent quand même à prendre un bateau et à partir donc vers le Venezuela, puis le Mexique, puis les États-Unis. Et c'est... Bon, l'énormité de ces événements, on ne peut pas s'empêcher de penser que Malakai en a été tellement imprégné. C'était un monde qui s'écroulait, un monde dans la guerre. Et immédiatement, il s'est mis à écrire. Alors, ça faisait très longtemps qu'il essayait d'écrire un livre qu'il avait voulu appeler En rupture de rôle, etc. Et puis là, je pense, et il le dit d'ailleurs, il a repris le titre d'un chapitre de Ma vie, de Léon Trotsky, Planète sans visa, pour titre de son immense roman, pour indiquer, alors voilà, Planète sans visa, c'est à double entente. C'est le bonheur de rêver un monde où il n'y aurait pas de frontières et donc l'obligation d'avoir des visas, et c'est l'horreur, au contraire, d'un monde spécialement en 1942, où la vie peut dépendre d'un visa. Et alors, Planète sans visa est un livre... énorme, avec une multitude de personnages, c'est un livre fleuve, mais qui, au bout d'un moment, procure des joies sur le genre humain, comme peu de livres peuvent procurer des joies. Moi, je me rappelle quand Daniel, avant de mourir, m'a mis ce livre dans les mains. Au bout de 100 pages, je poussais des cris, je me disais, mais on n'a jamais raconté ce genre d'histoire, de dévouement à rien, simplement de comportement humain magnifique. Et c'est vraiment un roman où il y a toute la noirceur dont est possible l'humanité, les collaborateurs, à tous les échelons. Malakai est capable d'écrire la vie d'un grand fonctionnaire de Vichy ou d'un petit collaborateur, et en même temps, des gens, on n'en revient pas que pour rien, sans espoir d'être connu, ben, ils se dévouent, ils sauvent des milliers de personnes autour d'eux, ou ils font des cours de physique en plein milieu des camps, ou ils vont sauver au péril de leur vie quelqu'un au milieu de la police allemande, enfin, voilà. Et une des figures est Victor Serge. Et ça a été une manière... l'histoire de Victor Serge, je voudrais juste en dire deux mots, a été douloureuse. Ils se sont beaucoup aimés et après beaucoup détestés. Bon, tout le monde peut se faire une idée, moi je ne prends pas parti, je dirais juste ça. Mais donc, un des personnages principaux de Planète sans visa s'appelle Stepanov, et c'est une figuration de Victor Serge.
De Kilbalchik.
Voilà, exactement. Et on voit Stepanov et son fils, alors... Ça n'est pas un roman où il raconte exactement ce qui s'est passé, mais il faut voir une des qualités merveilleuses de Malakai, qui en font vraiment un écrivain, à mon avis, immense, c'est qu'il est capable, à cette époque-là, d'avoir le plus grand des ressentiments contre Victor Serge, et d'écrire quelque chose qui n'est absolument pas à charge contre Victor Serge.
Je voulais dire que l'autre intérêt, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Georges, et l'autre intérêt de Planète sans visa, c'est aussi de relater les discussions, pour ceux que ça intéresse, les discussions qu'il y avait dans le milieu militant, puisque c'est le seul roman à ma connaissance où on met en scène des militants internationalistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et toutes les discussions qu'il y avait justement au sein de ces groupes militants, est-ce qu'il fallait rejoindre la résistance ou non ? Parce que si on est internationaliste, est-ce qu'il faut vraiment se battre pour la nation, même si c'est pour la défense de la démocratie, comme on disait à l'époque, ou non ? Est-ce qu'il faut mener jusqu'au bout une politique internationaliste pour expliquer que non, on n'accrochera pas ces wagons derrière la bourgeoisie française ? Et ces discussions donc agitent le petit groupe de militants, animé par Laverne, qui est d'ailleurs l'avatar de Marc Chirique hein, dans le roman. Et c'est intéressant parce que Laverne s'oppose là-dessus à Victor Serge et enfin, là aussi Alias Stepanov hein, dans le roman. Je voulais aussi dire autre chose pour aller vraiment complètement dans le sens de ce que disait Georges. Je crois que une des qualités vraiment fondamentales dans l'écriture de Malaquais, c'est à la fois cette lucidité, cet accent rebelle et en même temps ce profond optimisme en ce qui concerne le genre humain.
On va continuer de le voir avancer. Donc... Il y a Planète sans visa. Il est bien sorti ou c'est un bouquin qui était un peu ignoré? Parce que bon, les Chavanais, comme il avait eu un prix quand même, c'est automatiquement, ça pousse un peu.
Il est bien et mal sorti. Il a eu un succès. Il était attendu. Il était attendu. Il devait avoir le prix Goncourt. Il devait l'avoir. Il ne l'a pas eu. Malaquais avait publié un pamphlet contre Aragon pendant la guerre. C'était le plus sûr des moyens de ne pas avoir un prix littéraire après la guerre. Parce qu'à l'époque.
Patriote professionnel.
Oui,
c'est ça.
Le nommé Louis Aragon. Ah, tous les mots comptent là. Le nommé Louis Aragon ou le patriote professionnel. C'est un régal. Lisez-le. C'est aux éditions Syleps. C'est un pur régal et ça se lit en 3 minutes, mais vous allez voir ce que, enfin, un style de pamphlétaire comme ça, c'est une merveille. Bon. Et donc, voilà, Malaquais n'a pas eu le prix que d'autres, certains critiques ont dit, l'Académie Goncourt n'a pas lu le livre, il est trop gros, ça les fatiguait.
Juste la fin hein, du nommé Louis Aragon, le patriote professionnel, juste ça. Il s'agit d'Aragon, il a tout piétiné, y compris sa propre ombre, tout souillé de ses premières amours, tout pollué de ses dernières déjections. Que le patriote bêlant, dont l'oreille et le foie s'épanouissent au cocorico d'Aragon, ne se gêne pas. Il le trouvera dans la poubelle, au bas de mon escalier, et il peut l'y ramasser. Et maintenant, je vais me laver les mains et me rincer la bouche.
Oui, ouais, il a été plus méchant qu'avec Gide, hein.
Nettement. Et alors,
ils ne sont pas devenus copains après.
Non.
Non.
Et évidemment, en 1947, Aragon règne sur le monde des lettres. Le Parti communiste a de plus en plus d'influence.
C'est l'après-guerre.
C'est l'après-guerre. Et donc, même décerner le prix, un prix comme le prix Goncourt, c'est un acte politique. D'ailleurs, on le donnera à Elsa Triolet cette année-là. Il faut voir que Malaquais était très très mal parti, et pourtant sur le plan littéraire, bien des critiques pensaient que ce livre avait toute sa place. Et des critiques de droite comme de gauche d'ailleurs, parce que c'est un livre qui a une telle richesse de style, un tel foisonnement. Alors, on va écouter peut-être une lecture de Planète en même temps.
Alors si tu l'as fait, on n'a pas le temps pour les problèmes, ça fait rien. Non, on y va. Alors, une lecture.
Alors, une lecture, ça met en scène justement le fils de Stepanov, Fiora. Le tonnerre dura tout l'après-midi, s'acharnant à percer le ciel. Entre 4 et 5 heures, il y eut quelques grosses gouttes isolées. Elles arrivèrent les unes à la suite des autres pour s'écraser au sol dans un bref jaillissement. Les détenus furent rembarqués dans la camionnette. Elle dérapa au départ et prit le virage du portail dans un grand style. Des policiers trituraient leurs pantalons, d'autres se tamponnaient la nuque. Il pensa changer de place, mais ne put s'y décider. À 11 heures, il s'installa à la terrasse d'un café, face à l'hôtel où Yvonne et son père avaient leur chambre. Il les vit sortir à l'heure du déjeuner. Ils s'acheminèrent d'un pas tranquille en direction du vieux port. Il les suivit sur le trottoir opposé, les quitta à l'entrée du Bon Aloi, Madame Babayou, propriétaire. Depuis leur sortie de l'hôtel, un homme en veston croisé et à pantalon trop court les avait pris en filature. Il retourna au café, demanda une limonade. Espinasse aurait donc dit vrai. Si son père était vraiment filé par la Gestapo, Espinasse aurait donc dit vrai. Il ne put se sortir cette idée de l'esprit. Elle y revenait sans cesse, tenace et monotone. Si pourtant il jouait franc, il avait dit que tout ça lui était égal que la Gestapo prit le vieux, et pourtant il jouait franc. Il demanda une autre limonade. Et si Espinasse jouait pour Marc? Pourquoi? Qu'est-ce que Marc lui avait fait? Que voulait-il faire à Marc? Espinasse et Marc. S'il ne voulait rien, s'il se préparait des alibis pour après, pour quand il aurait à répondre d'avoir forniqué avec la Gestapo. Mais non, il aurait plutôt misé sur quelques fils à papa égarés dans la résistance. Et s'il jouait double jeu, sa grosse bidoche pétrie de secrets gaullistes, sa tête océanique truffée de mystères nazis, et s'il jouait les uns, décapitait les autres, assistait les troisièmes selon le rythme hagard de la démence. Il but limonade sur limonade, pensant avec une hâte qui le faisait trébucher, sentant qu'il se convertissait à la cause d'Espinasse. Il se souvint d'Aurel, la nuit, il était recroquevillé dans la boue du chemin. À quelques pas de la prison, les hommes dans la prison à leur 19e jour de jeûne, la voix veloutée de l'officier du Guépéou. « Non, non, qu'est-ce que tu dirais d'une gorgée de vodka avec du caviar? Sinichka avec du caviar ?» Sa voix Guépéou, émue. « Non, lève-toi, c'est assez comme ça, 3 jours comme ça. Pareil, Nioc, hein, tu feras la grève quand tu seras grand ?» Sa voix Guépéou, bouleversée. « Non, non, une lampée de vodochka. » Fais ça pour moi, Rebionok, pour moi, pour la Sainte Mère Russie, sa voix Guépéou obscène au niveau de la boue de la nuit, de 100 000 enfants morts et à mourir. Nous, du caviar. Alors, Espinasse et Marc, pourquoi pas? Espinasse et Marc, comme lui-même, à 14 ans, dans la boue d'Aurel, face à la prison, avec son père dans la prison et le Guépéou ivre, à toute meute son matin mélomane, son piqueur sentimental, et Marc pour nourrir le hockey du flic, les jours où le flic est triste, les nuits où le flic est avec les putains. Vers les 7 heures, la voûte de schiste descendit si bas qu'il fit noir, le tonnerre n'avait pas perdu l'espoir de trouver le ciel, il y eut des éclairs en nappe, et des grondements en cascade, et des chocs en retour, l'humidité se laissait cueillir, elle se laissait prendre dans le creux de la main, la cour de l'évêché était déserte. Il y eut un court-circuit qui dura longtemps. La lueur des éclairs dévoilait des grappes d'argent réfugiées à l'intérieur des bâtiments. Il se pressait aux fenêtres, fouillant le ciel avec les yeux de l'innocence. Il devait être 8 heures quand il s'en alla par le grand portail. Il prit le même chemin que la veille, avançant du même pas léger. Il n'avait pas faim, il était sans force. Il retrouva sa place parmi les blocs de ciment à l'extrême bout du brise-lame. Il y eut une courte panique parmi les crabes quand il se coucha. La pluie commença peu après, et elle dura toute la nuit.
Alors, Malaki, il devient quoi après? Parce que j'ai l'impression qu'après, il disparaît un peu. Qu'est-ce qui se passe?
Après,
les années 50.
Dans les années 50, il va devoir travailler, évidemment, pour gagner sa vie.
C'est des choses qui arrivent,
hein, voilà.
Mais d'ailleurs,
Il va travailler aux États-Unis, puisque c'est là où il va trouver finalement refuge. Il va être professeur d'université. Il va rencontrer Norman Mailer
et il va le traduire
Les Nuits et les Morts, oui. Donc il va vivre de traduction, de cours. Il va devenir très lié à Norman Mailer. Mailer dira d'ailleurs de Malaquais que c'était son mentor en politique. Il va l'influencer, son mentor tout court d'ailleurs, même sur le plan littéraire, hein, puisque Malaquais va lui donner un certain nombre de conseils. D'ailleurs, la correspondance là aussi entre Mailer et Malaquais a paru il n'y a pas très longtemps au Cherche Midi. Et ensuite, Malaquais va continuer à écrire son dernier roman, alors qu'il avait commencé d'ailleurs avant la guerre, qui s'appelle Le Gaffeur, qui est un roman important, hein, dont il faudrait parler un jour un peu plus longuement d'ailleurs, ainsi que Planète, je crois qu'il faudra revenir peut-être pour reparler de tout ça. Et donc Le Gaffeur est un roman qui raconte notre société en fait, mais une cité complètement aseptisée, bureaucratisée. Alors on l'a comparé effectivement, Le Gaffeur, au monde d'Orwell. La différence que là on a un personnage qui est innocent en quelque sorte, enfin innocent pas tout à fait, c'est un poète, et il a justement le tort d'être poète, de vouloir vivre en toute indépendance et en poésie, et donc d'avoir des pensées qui échappent au contrôle de la cité. Et donc la cité ne le tolère pas. Et on va le traquer, cet homme, ce gaffeur, cet homme qui fait la gaffe et qui en même temps observe, puisque gaffeur, ça a ce double sens. Et la cité va essayer d'avoir sa peau. Voilà, j'en dis pas plus parce que ça se lit aussi un petit peu comme un polar, hein, avec une bonne tension dramatique. Hein. Et c'est le premier roman que Malaquais écrira à la première personne. Je ne sais pas si c'est ça ou parce qu'il pense que l'écriture de roman est un peu vaine. Toujours est-il qu'il s'essaiera à un autre roman après, beaucoup plus formel, qui n'est jamais paru d'ailleurs. Et il arrêtera définitivement d'écrire. Il va se consacrer beaucoup plus là au théâtre. Enfin, il va faire une pièce de théâtre, La Courte Paille, on a dit quelques mots tout à l'heure. Et puis à la philosophie. Mmh. Si c'était possible, est-ce qu'on pourrait faire entendre un poème on a encore 5 minutes. Puis juste, je voulais dire, pour conclure, parce que Georges n'arrête pas de me le dire, donc je vais le dire, que une monographie, donc une biographie sur la vie de Malaquais, donc paraîtra en octobre au Cherche Midi. Voilà. D'accord.
On pourrait me dire aussi où on peut vous voir ce soir, quand même.
Oui, absolument.
Ça, c'est le minimum.
Comme
on finira juste après le poème.
Alors, ce soir, on sera à la librairie Folie d'encre. Tu peux redonner l'adresse, s'il te plaît,
14 place du Caquet à Saint-Denis.
Métro Basilique. C'est à deux pas du métro, il n'y a pas de problème. Donc, Folie d'encre, petite librairie locale sur Saint-Denis. Donc, c'est quelle heure ?
À 19h30.
19h30 pour des lectures et pour la connaissance de Jean Malaquais.
Voilà, et pour admirer les magnifiques aquarelles faites par Gilbert, qui est là d'ailleurs.
D'accord. Donc, un poème ?
Un poème qu'on va lire à trois d'ailleurs, on va le lire à trois. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps aussi de parler du style Malaquais, qui est un style qui, on en a parlé, mais de développer, qui est un style aussi qui fait beaucoup penser à Sandrard et Vera Rehn. Bon, mais ce soir, peut-être que ceux qui viendront nous écouter pourront en juger. Alors, donc c'est un poème à trois avec Christiane pour commencer. Moi-même, Michel, ensuite, et puis Georges, pour conclure. Il s'intitule « Vous ne saurez jamais ». Il est dédié à Dominique de Ménil et a été écrit à Paris en octobre 1941.
Vous ne saurez jamais ma soif, mon angoisse, des visages douloureux, des nébuleuses obscures, des sourires lumineux, des carrefours tordus. Du temps qui naît, du temps qui meurt, des fenêtres closes, des tombes étales sous le baiser humide du ciel.
Vous ne saurez jamais mon désir, mon délire du cri de l'homme, de l'herbe en prière, des rayons de miel, de la mort qui pue, des ruelles verticales, des quais huileux, du sang sur la bouche, des femmes ouvertes à la danse sauvage de l'amour.
Vous ne saurez jamais ma pitié, ma passion des mains calleuses, des fleuves somnolents, du bleu de la nuit, des siècles perdus, des pas dans le sable, des barricades hâtives, des silences terribles, de la colère qui lève dans la patience tragique du monde.
De la colère qui lève dans la patience tragique du monde.
Radio Libertaire 89.4, c'était la philanthropie de l'ouvrier charpentier. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour parler d'un autre personnage qui est totalement différent, qui s'appelle Giap. Ça nous changera un petit peu. Pour nous joindre, le 01 43 71 89 40.